Catherine Rossi-Bateau, bonjour.
Bonjour.
Directrice de Luxe Scène Nationale à Valence avec une nouvelle édition de Viva Cinéma. Quel est le fil conducteur de cette programmation pour 2025 et sans doute comme les années précédentes?
Alors, les fils conducteurs, il y en a plusieurs, parce qu'en fait, Vive Cinéma est une grande fête. L'idée, c'est d'être un moment de rassemblement pour savourer, et pourquoi pas, des douceurs un petit peu différentes. Donc, en l'occurrence, on a choisi trois parties du menu, on va dire. Il y a une partie autour de l'Arménie, il y a une partie autour de la comédie américaine avec un hommage à Ernst Lubitsch. Et il y a une partie d'avant-première et de ce qu'on va appeler des raretés qui viennent effectivement de quelques trésors de collectionneurs. Donc ça compose un menu savoureux, bien sûr, convivial, qu'on a voulu aussi léger, qu'on a voulu aussi un peu voyageur avec, en effet, cette ouverture à l'Arménie qui nous arrive, et cela est un petit peu étonnant, par un chorégraphe, pas n'importe lequel, Mourad Merzouki, qui est quand même le chorégraphe et le danseur de hip-hop le plus connu en France, et qui a revisité l'an dernier un grand film de Barajanov appelé Sayat Nova, La couleur de grenade. Et Mourad Merzouki, dans un voyage en Arménie, a rencontré des danseurs et des musiciens arméniens et a créé ce spectacle qui, en effet, permet de rassembler de la danse hip-hop et de la danse traditionnelle arménienne, le théâtre et le cinéma, les musiques électro et les musiques arméniennes pour ce très très beau spectacle qu'il a appelé La couleur de la grenade. Donc ce point de départ du spectacle de danse, donc déjà c'est intéressant de voir que dans un festival de cinéma, on ouvre avec la danse, on va d'ailleurs clôturer aussi avec de la danse. La question qui est posée, c'est la manière dont les artistes d'aujourd'hui revisitent le cinéma, son histoire, pour simplement partager avec nous des films qui nous traduisent le fait que s'ils nous émeuvent, s'ils nous font rire, s'ils nous font parfois pleurer, bon là c'est pas le cas, cette année on va pas du tout pleurer, c'est que le cinéma est vivant, c'est un art extrêmement vivant, qui ne demande qu'à être partagé et quelle que soit en fait la période de sa réalisation, en effet, il est vivant, son cœur bat encore aujourd'hui, d'autant plus si on est nombreux, si on est mélangé et si on le découvre. C'est un petit peu l'enjeu de l'édition.
Alors, je vais reprendre vos paroles, on ne va pas pleurer. Quelle place accordez-vous à l'humour dans le programme de cette édition?
Alors, l'idée de pleurer, c'était en référence à Douglas Sirk, grand maître du mélodrame américain, auquel nous avions rendu hommage il y a 2 ans. Mais on a beaucoup aimé pleurer ensemble, hein, quand même. C'était vraiment formidable aussi. Donc, cette année, on rit. Alors, pourquoi? Parce qu'à vrai dire, le contexte me semble tellement morose que je me suis dit qu'il fallait vraiment qu'on arrive à le transfigurer. Et j'ai regardé un peu dans l'histoire du cinéma qui avait réussi à transfigurer des périodes pas bien drôles, et notamment les années 30. Et j'ai retrouvé Ernst Lubitsch, qui était un Allemand, un metteur en scène de théâtre à la base, parti aux États-Unis au début des années 20, et qui a développé une comédie très particulière, une comédie sophistiquée, qui a même porté son nom, puisqu'on parlait de Lubitsch Touch, vraiment le style Lubitsch, qu'il a été le seul à décliner, un mélange de mise en scène extrêmement subtile, d'une direction d'acteurs, pas n'importe lesquels, hein, ce sont toutes les grandes stars de ces années-là, pour des comédies de mœurs où est mis en scène l'amour, c'est vraiment la question de l'amour, hein, qui l'a beaucoup, beaucoup habité, de manière assez audacieuse, somme toute, si on resitue, il a filmé au moment de la mise en place d'un code de censure aux États-Unis, donc évidemment, tout est en ellipse, tout est détourné, mais c'est vraiment la question de l'amour, de l'affirmation, effectivement, vraiment du cœur de chacun et de chacune qui est en jeu. C'est d'une drôlerie, mais vraiment, vraiment incroyable. Et évidemment, Lubitsch a aussi réalisé un film qu'on connaît un peu plus pour son lien au théâtre et son lien à l'histoire. Le film s'appelle To Be or Not To Be. C'est un film qui a été réalisé en 1942 et qui est une satire du nazisme. Donc, seuls deux réalisateurs ont osé le faire, c'est Chaplin avec Le Dictateur et Lubitsch avec To Be or Not To Be, mettre en scène Hitler et le tourner en dérision. Alors, ça se passe en Pologne avec une compagnie de théâtre. C'est extrêmement fin. Quelque part, c'est là aussi d'une audace assez étonnante. Vraiment, vraiment. Et je trouve que c'est salvateur aussi de voir comment le cinéma peut nous donner un regard sur un temps présent. Là, c'était des années 40, mais aujourd'hui encore, qui peut-être fait du bien, parce que peut-être que ça ouvre des perspectives qu'on n'imagine pas. mais que ça invite à réfléchir par un mode assez détourné tout de même. En tout cas, To Be or Not To Be, c'est vraiment très très savoureux. Évidemment, c'est Shakespeare qui est au cœur de tout ça. C'est un jeu sur le vrai, le faux, l'amour, là aussi l'amour, bien sûr. Voilà.
Vous parliez, Catherine, tout à l'heure de la rencontre que vous provoquez entre la danse et le cinéma. Il y a aussi un dialogue entre cinéma et musique. Hein. Il y a une synergie que vous cherchez à créer aussi entre ces deux disciplines.
Oui, toujours. Alors, on invite Nathanaël Bergès qui va nous inviter à revisiter Buster Keaton. On invite la classe de composition pour musique à l'image du conservatoire qui fait un concert en ouverture d'un film de Miyazaki, les œuvres de Joe Hisaishi, qui est le grand compositeur fétiche de Miyazaki. Et en clôture, on va montrer des films qui sont issus d'une collection privée de Joe Milgram, qui collectionnait les films des musiciens danseurs de jazz du début du cinéma parlant, donc des années 30-40. La plupart sont des Noirs américains. Dansent évidemment les claquettes comme des dieux. Chantent avec des musiciens de jazz incroyables. Ça, c'est le film de clôture. Donc là aussi, c'est la mise en scène de la musique et de l'image au cinéma. Donc c'est une façon un peu différente des ciné-concerts qu'on a pu montrer ces dernières années, mais c'est toujours extrêmement intéressant de voir comment le cinéma, c'est une chambre d'écho aussi pour les autres disciplines artistiques, et que ces dialogues, ces allers-retours sont toujours très féconds.
Alors, on va renvoyer évidemment vers le site officiel pour avoir un aperçu plus détaillé du programme, qui est très très riche en invités aussi.
Voilà, alors des invités. Alors, en plus, cette année, en effet, on a des grands invités. J'ai parlé de Mourad Merzouki tout à l'heure. Je citerai également Thierry Frémaux, qui est directeur de l'Institut Lumière à Lyon, mais qui est aussi le délégué général du Festival de Cannes depuis une quinzaine d'années, qui est donc un grand cinéphile, amateur de cinéma, et qui quelque part aussi fait le grand écart entre le patrimoine lumière, donc le début, l'invention du cinématographe lumière, et la création mondiale la plus créative aujourd'hui. Donc Thierry vient présenter en avant-première mondiale son film qui s'appelle Lumière, le cinéma, qui est un film où il raconte en effet l'invention des frères Lumière, et là aussi l'actualité de leur invention esthétique, parce qu'on pense souvent aux frères Lumière avec un dispositif, le cinématographe, donc un dispositif de prise de vue et de diffusion, mais ils ont aussi inventé une façon de filmer le réel, et ils ont aussi inventé un rapport du cinéma du monde en envoyant dans le monde entier des opérateurs qui ramenaient à ce moment-là des images de contrées très lointaines que les gens n'avaient jamais vues, et surtout pas en image en mouvement. Donc c'est quelque chose de très fort, en fait, que l'invention des frères Lumière, et là Thierry a fait restaurer une nouvelle partie du patrimoine. C'est tout juste sublime. Je n'ai vu qu'une partie du film à Cannes l'an dernier parce qu'il l'a présenté, mais c'est magistral. C'est vraiment magistral que de voir ces images qui sont celles de la naissance, mais qui sont celles du cinéma toujours, en quelque sorte. C'est vraiment magique. Donc, on a la chance d'avoir cette avant-première, d'avoir Thierry et l'équipe de l'Institut Lumière qui va être présente. On fera une signature aussi, parce que par ailleurs, il se trouve que Thierry Frémaux a écrit des livres aussi. Il y a un sur le judo, qui est quand même connu, qui s'appelle Judoka, mais d'autres livres aussi, dans la collection Nuit et Musée, sur le Festival de Cannes. Donc, on fera une dédicace avec Oiseau Siffleur, puis une grande soirée ciné-débat avec un grand pot, comme on aime bien les faire ici. Nous aurons Raymond Despardon aussi, qui va venir présenter un de ses premiers films sur la photographie. Alors là, c'est l'avant-première d'une nouvelle restauration de film, Des années des clics. Donc, c'est un film qui raconte ses débuts de photographe. Lui, l'enfant de paysan de la Haute-Saône, parti à l'agence MacDom, est devenu à 16 ans un photoreporter extrêmement important, puis un grand cinéaste. Donc ça, là aussi, un dialogue entre photographie et cinéma, et un grand, grand monsieur que nous aurons vraiment le bonheur d'avoir auprès de nous. Et puis, tous les films présentés avec des gens qui ont restauré des films, des gens qui viennent de Cinémathèque, Gaëlle Rouard, qui est une cinéaste assez proche de nous, puisqu'elle est dans le Trièves, qui fait encore des films argentiques, qui travaille le cinéma de manière très artisanale, en filmant la nature autour d'elle, va exposer des films argentiques, bien sûr, des photographies. Elle propose une projection en 16 mm. Alors ça, c'est vraiment exceptionnel. Il faut venir voir ça et entendre le bruit du 16 mm encore dans la salle. Voilà, donc tous les jours, des invités, des rencontres, notre assemblée de jeunes spectateurs qui est très impliquée et qui se fait un plaisir aussi de vous accueillir à Lux. Une fête, je vous disais.
Je voulais finir avec ça tout de même. Les jeunes spectateurs jouent un rôle actif pendant le festival. Vous cherchez vraiment à chaque année à les impliquer davantage dans les différentes éditions.
Oui, l'Assemblée des jeunes cinéphiles, on l'a créée il y a 3 ans. Maintenant, c'est devenu une assemblée de jeunes spectateurs parce que du cinéma, ils sont passés au spectacle. C'est ça le petit changement de nom. Et chaque année, on leur propose d'être acteurs, en fait, dans Viva Cinéma. Donc là, en l'occurrence, cette année, ils vont beaucoup animer les réseaux sociaux. Ils vont faire des interviews de spectateurs. Donc là, ils commencent à se former à ça. Ils vont faire des interviews d'invités. Et en fait, en quelque part, on les accompagne pour qu'ils réussissent ce qu'ils ont envie de faire, en les invitant à découvrir, évidemment, Earth Soubit, ils n'en avaient quasiment jamais entendu parler, encore que peut-être l'un ou l'autre, mais c'est vraiment l'idée qu'ils deviennent acteurs, en fait, à Lux.
Eh bien, tout le programme, vous allez d'ailleurs nous rappeler, le site, c'est tout simplement celui de Lux à Valence, et on a toutes les infos.
Vous avez toutes les infos. Un très joli teaser aussi. Chaque année, nous mobilisons une jeune réalisatrice qui nous a fait un joli teaser que je vous invite à découvrir, qui invite à rire plutôt.
Eh bien, on va le partager. Merci Catherine Rossi-Bateau, directrice de Lux Scène Nationale à Valence.
À très très bientôt.